Dan Gagnon pour le podcast tout seul, le numéro 56. Vous allez voir, il est vraiment spécial. Je suis excessivement content de pouvoir faire ce numéro-là en particulier. Juste avant, vous remercier encore une fois pour tous ceux qui sont abonnés depuis le dernier numéro, que ce soit sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer ou encore sur YouTube. Merci beaucoup. Et évidemment sur Patreon, donc patreon.com/DanGagnonPodcast. Là, vous avez un numéro de plus à chaque semaine. Et depuis la dernière fois que j'en ai parlé, c'est Cynthia et Laura. Et à chaque fois, je me demande si ça fait super fake. Mais je vous jure que ce sont les vrais noms des vraies personnes qui s'abonnent. Donc merci, ça grandit. Et on a des objectifs, un certain nombre d'abonnés. Il y a des numéros spéciaux qui arrivent que pour les abonnés du Patreon. Donc il fallait jeter un coup d'œil de toute façon. Patreon.com/DanGagnonPodcast. Je disais que le podcast aujourd'hui était spécial parce que depuis le début du projet, le numéro de podcast tout seul où j'ai eu le plus d'écoute, il y a eu le plus de succès, et genre de loin, c'est le seul podcast où je n'ai pas été tout seul. Donc, petit exercice d'humilité quand même, et je me suis dit, tu sais quoi, fuck it, je vais vendre mon âme au diable. Je fais comme un artiste qui décide de faire un film populaire. Je m'abaisse au niveau de la demande du public. Vous allez voir pourquoi ça me fait rire. C'est le retour de mon épouse dans le podcast. Salut Hugh!
Bonjour!
Est-ce que tu es toujours contente d'être là?
Hein, c'est... Quel accueil!
C'est vrai, on s'en vient! Hein.
Toujours agréable de se faire dire qu'on est une merde avant de commencer.
Oh non, attention!
Si, carrément!
Non, sincèrement, merci beaucoup. Et ça m'a vraiment touché, le podcast, de voir la quantité de réponses qu'il y avait eu. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est le podcast numéro 20 qui s'appelle « Je croyais que j'étais une connasse ».
Ouais.
Et c'est toi qui venais parler d'une de tes maladies, la bipolarité, comment ça a été compliqué, comment dans le confinement c'était compliqué. Et il y a une tonne de gens qui m'ont contacté, qui ont demandé ton contact. Et je sais que tu es en discussion avec beaucoup parce qu'il y en a qui se sont dit genre, oh shit, ok, je suis pas tout seul.
Oui, ben oui. Ben en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'en parle tellement pas. On en parle dans les médias, on en parle voilà, un peu maintenant de la maladie mentale, mais on n'en parle pas dans les familles.
Non,
et on n'en parle tellement pas dans notre entourage proche, notre cercle intime, qu'on a toujours l'impression d'être le seul à être affecté d'une maladie mentale. Et ça nous rend encore plus seuls. Et il n'y a rien de pire. En tout cas, moi, c'est une de mes plus grandes angoisses, c'est d'être seul dans la foule, d'être seul dans un rassemblement familial, de se sentir seul au milieu de ses proches. C'est terrible comme sentiment. Et c'est pour ça que j'étais heureuse de pouvoir leur répondre et de voir... T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. On est toute une communauté, mais on se connaît pas parce qu'on n'en parle pas. Alors, venez, on en parle.
Et je trouve ça tellement intéressant que la discussion se fasse réapproprier. Désolé pour la phrase.
Se fasse réapproprier.
C'est quand je commence mal une phrase, j'essaie de la corriger pour que ça marche, mais des fois, j'arrive bloqué à la fin, je fais comme « Ah, shit ». Donc, que ce soit des gens qui soient victimes de... Est-ce qu'on dit victimes seulement de maladie mentale? Qui a une condition, qui a une maladie mentale. Des gens qui
malades, en fait.
Ou des gens malades. Qui se réapproprient la conversation, que ça soit pas ce truc distant, intellectuel.
Alors, mais ça, oui. Excuse-moi, je te coupe.
Oui, s'il te plaît.
Parce que, en fait, c'est systématique. On ne donne pas aux gens concernés la parole dans le débat qui les concerne. On ne donne pas, dans le débat du voile, on ne donne pas la parole aux femmes voilées. Dans le débat de la maladie mentale, on ne donne pas la parole aux malades mentaux. Toutes ces choses-là, c'est, le système est toujours exactement le même. Et c'est ce système que j'essaye, à mon échelle, d'enrayer. Alors ça passe dans mon combat pour le fait de d'être mieux éduqué sur la maladie mentale, ça passe dans mes combats féministes, ça passe dans toutes sortes de choses, mais on n'est pas tout seul. C'est pas vrai. Et si on se rassemble, en fait, on a toutes les clés, on a toutes les cartes. C'est juste que moi, j'en ai une, toi, t'en as une autre, toi, t'en as une autre, toi, t'en as une autre. Et si on se parle, ouais, on va s'en sortir. Il faut qu'on se parle.
Et tu reviens vraiment au concept de honte. L'association d'une condition et de la honte, quand on le déconstruit un tout petit peu, souvent, ça fait aucun sens. Pourquoi tu devrais avoir honte d'être malade? Pourquoi tu devrais avoir honte de montrer une fesse? Pourquoi tu devrais avoir honte de t'être fait agresser? Pourquoi tu devrais avoir... Et quand tu enlèves ce truc-là de honte qui... consciemment, pas consciemment, méchamment, pas méchamment, ça sert à faire taire.
Mm-hmm.
T'as plein de gens qui peuvent se dire, oh, moi, dans les contes féministes que je suis, il y a une phrase qui m'a marqué vraiment dernièrement, c'est pas parce que t'es féministe et que tu laisses passer un truc complètement sexiste que tu dois...
te flageller.
Exactement. C'est OK, des fois, de pas toujours être sur le pont. Et vraiment, c'est...
Oh. Oui, et parfois, il y a des combats qui sont juste trop gros pour nous, et c'est normal, et ça veut pas dire qu'on est une horrible personne, ça veut juste dire qu'on est un être humain, et qu'on a aussi nos limites. Et pour... c'est ça, le... on parle de self-care, self-love, apprendre à se connaître, c'est mes soins, c'est ça, c'est mes soins, c'est se dire, ce combat-là, oui, il est important, mais il va me faire du mal, je vais dépasser mes limites, non, celui-là, je peux pas me brûler dans celui-là, et je dois arrêter, je dois abandonner celui-là, parce que sinon, en fait, c'est la fin de la lutte. Et donc, que ce soit pour soi-même ou pour pouvoir continuer la lutte, il faut que toi, tu te sentes bien, il faut que toi, tu sois bien. Donc, ne te brûle pas.
Tu ne gagnes pas un combat en tuant des soldats.
Non, tu gagnes un combat en t'entraînant. Ouais, et en prenant soin de toi. Et en étant rigoureux et en étant attentif à ce que ton corps te dit, à ce que ton esprit te dit, en étant attentif à toutes ces petites choses-là.
Et c'est là que je voulais saluer vraiment ta générosité. Parce que,
merci.
Ouais, parce qu'encore une fois, moi j'en parle parce que je suis, entre guillemets, concerné, parce que toi, tu as une maladie, ben on revient encore exactement au point que tu soulignes. Toi, tu viens en disant comme « Ah, salut, je suis bipolaire ». Déjà, c'est encore aujourd'hui, tu dis ça dans n'importe quel milieu, je suis sûr que ça crée un froid. Mais ça crée un instant de malaise.
C'est quelque chose dont je parle librement, c'est-à-dire que je l'affiche pas en disant « Salut, je m'appelle Flavie, je suis bipolaire ». Non, mais si on me demande, si ça se met, si machin, je réponds « Oui, j'ai une maladie mentale, je suis bipolaire ». Et alors là, toujours les gens me regardent un peu, toujours ce petit recul et les yeux qui s'ouvrent un peu plus grands.
Oui, oui.
Mais que je comprends parce que c'est une maladie qui est mal comprise et qui est mal connue. Donc
déjà, schizophrène et bipolaire, c'est pas évident.
Hein. Déjà, c'est ça. Et c'est pas parce que t'es schizophrène, ou que t'es bipolaire, ou que t'as une maladie mentale, que tu vas sortir un couteau maintenant et lui trancher la gorge. Enfin, c'est pas ça, la maladie mentale. Mais c'est juste que c'est tellement l'image qu'on a de la maladie mentale, qu'on pense que c'est ça la réalité. C'est faux. Et c'est le même problème dans la pornographie, c'est le même problème dans la représentation de la femme, c'est le même problème dans la représentation des minorités, quelle qu'elle soit.
Je rajouterais la représentation de ce qui est viril, si on veut utiliser un truc...
En fait, c'est ça, ce problème de cette...
représentation.
Cette représentation qui complètement fausse.
Ben, elle est la représentation, et je crois qu'un des bons exemples qu'il y a de ça, c'est que la représentation dans l'imaginaire collectif vient souvent, ben, en partie en théorie de l'éducation, en partie des conversations que tu as eues avec des gens, et en grande partie de la représentation dans la fiction.
Parce qu'il arrive au final, excuse-moi, vas-y, continue.
Et donc, dans les conversations, tout ce qui est tabou, les conversations avec d'autres gens, t'oublies, donc ça n'existe pas, donc ça laisse l'éducation et puis la représentation dans la fiction. Et si l'éducation est problématique ou l'éducation n'en parle pas, ça laisse ce que je sais de l'autisme, c'est Rain Man. Ce que je sais de schizophrène, c'est Harley Quinn. Je ne sais même pas si c'est schizophrène.
Je ne sais pas.
Mais je veux dire, c'est ce que j'ai vu dans un film, c'est le méchant. J'ai peur des requins, parce que dans tous les Disney, tous les Pixar, les requins, ce sont les méchants.
Ouais.
J'ai moins peur des éléphants, donc tu es plus de gens, j'en sais rien, mais tu vois de toute façon le principe.
Oui, tout à fait.
Et avec la maladie mentale, c'est le même principe. C'est rare un héros en fiction atteint d'une maladie mentale, qu'il soit le personnage principal et qu'il soit le héros ou l'héroïde.
Et qu'il ne soit pas complètement non fonctionnel.
Qu'il ne soit pas Madame Bovary. Qui n'est même pas finalement le personnage principal de Madame Bovary.
Non, c'est ça le pire. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand on représente, même éventuellement, s'il y avait un héros avec une maladie mentale qui machin, souvent ce personnage reste un personnage qui est vraiment de douleur, de noirceur,
il n'y a pas d'exemple positif.
De totale incapacité à gérer ses émotions, de machin. C'est pas ça, la maladie mentale. Ce n'est pas que ça, la maladie mentale.
C'est rare.
D'ailleurs, dire la maladie mentale, c'est ça, non, parce que c'est comme dire la maladie physique, c'est tel truc. Non, il y en a tellement. Genre, on n'a aucune idée encore à quel point il y en a.
Maladie mentale, c'est comme le fond des océans.
C'est ça, on sait presque rien pour l'instant encore. Moi, on m'a dit, t'es bipolaire, ça se soigne pas, on peut gérer les symptômes un peu, mais voilà, en gros, t'es foutu, c'est mort, quoi.
Et pour revenir à la représentativité, la représentation, c'est rare qu'un personnage ayant une maladie mentale soit autre chose que sa maladie mentale, que ce soit pas la caractéristique première.
Exactement.
Que ce soit juste, genre, c'est quelqu'un qui...
Un personnage peut pas être malade mentale sans que ce soit... une série sur la maladie mentale.
Son axe, ça va toujours être la maladie mentale.
C'est ça.
Et ça fait en sorte...
Monk style, en fait.
Oui, et Et ce qui, à l'époque, peut-être, en tout cas pour Rain Man, je sais, était une grande avancée parce que ça a permis aux gens de savoir que ça, ça existait. C'est pas genre, il est fou, fait, OK, il est autiste, ça veut c'est dire ça. telle chose. Donc, c'est une belle étape. Mais dans les messages que moi, j'ai vu passer, il y a un message qui disait, le témoignage m'a permis de comprendre que c'est possible, genre, en gros, de, si je paraphrase un tout petit peu, s'aimer soi-même et être aimé malgré la maladie mentale. Et là, tu fais comme, oh no, il faut revenir, il faut...
Absolument.
Revenons à l'étape 1. C'est pas toi... C'est quelque chose que...
En fait, tout part de la source de tout ça, de tout ce dont on va parler aujourd'hui et tout ce dont on a parlé la dernière fois. La source de tout ça, c'est cette distinction qui est faite entre maladie physique et maladie mentale. Oui. Comme si tu as une maladie physique, ta maladie, elle est légitime, parce que je peux la voir, je peux la toucher, je peux la calculer, je peux la... Tu vois ? Et donc, elle est légitime. Et donc... Si tu souffres, on te soigne, on t'aide, on te soutient. On crée des associations pour que les enfants atteints de ces maladies-là vivent des choses magnifiques. Et Make-A-Wish merveilleux, ce n'est pas un reproche que je dis, mais il y a cette reconnaissance de la maladie physique, cette acceptation de tu es malade, tu as le droit de t'arrêter. Tu as un cancer, tu es en arrêt maladie pendant 2 ans, personne ne va te le reprocher, personne n'oserait reprocher à un cancéreux d'être en arrêt maladie, alors que tout le monde reproche à un dépressif d'être en arrêt maladie pendant 6 mois.
Bouge-toi le cul, moi aussi, c'est difficile parfois.
Exactement, et c'est cette ce deux poids deux mesures avec maladie physique, maladie mentale, qui est la source de tout. Alors, ce que je dis souvent à quelqu'un qui a une maladie mentale et qui a du mal à s'accorder le droit d'être malade et d'avoir besoin d'aide, de médication, de repos, peu importe selon la personne.
Et même d'aide financière.
Et d'aide financière, bien sûr, évidemment.
Sur le chômage parce que je suis en dépression, oh, profite du système.
Ah, profite du système, nanana, assister, etc. Non! Je suis en dépression, je suis malade, je ne suis pas apte à...
C'est fou à quel point quand on le voit pas, puis je sais que tu m'as déjà fait le reproche, et à juste titre, des fois tu me dis, putain Dan, tu me demandes de faire des choses et tu sais je suis pas capable parce que je suis malade, s'il me manquait une jambe, jamais
tu te permettrais
tu
de demander.
N'oserais, et d'ailleurs le terme que t'existe, tu aurais l'audace de me dire ça, puis je fais, putain, mais... Ah, non seulement t'as raison, en théorie, je veux dire, j'étais là quand t'as eu ton diagnostic, je suis quand même vachement au courant. Et malgré tout, alors que je le vois et je le vis au jour le jour, et que si tu me demandes de l'écrire, ce que je veux dire, c'est bien évidemment, au quotidien, je glisse, ça m'arrive de glisser,
bien
et
sûr.
Tu fais comme... Oh.
Et c'est normal, parce que c'est... ça se voit pas. Et en plus, on se cache. On apprend à se cacher, on apprend à la cacher, la maladie mentale, et en fait, on pense qu'on la cache, alors qu'on cache rien du tout.
Oh mon Dieu.
On cache le nom, mais on cache pas les attitudes, on cache pas les symptômes, on cache pas ça. Et donc, en fait, au final, je pensais que j'étais une connasse. Parce que c'est tellement ce que les gens m'ont dit que j'étais, parce que mes symptômes de bipolarité, en fait, c'était, je ressemblais à une princesse capricieuse, incapable de se gérer,
intransigeante,
radicale, machin, etc. Bah, vu de l'extérieur, c'était tout à fait vrai, en fait. C'était exactement ça.
Mais tellement
ça,
que tu y as cru toi-même.
C'était tellement exactement ça que moi-même, je me disais, putain, mais je suis vraiment un monstre. Mais pourquoi est-ce que moi, je suis pas capable de me gérer? Pourquoi est-ce que les autres sont capables de se taire quand c'est nécessaire et que moi, je me vois faire et j'ai plus le contrôle sur les manettes, quoi.
Ça, c'est bluffant. Et j'imagine que tu en avais parlé, mais si c'est pas le cas, je veux que tu le racontes. S'il y en a qui vivent ça ou s'il y en a qui sont avec des gens qui vivent ça, tu dis que quand tu rentres dans une crise...
En fait, je sens la crise arriver. À peu près, je la sens arriver à peu près 3-4 semaines à l'avance. Je le nie, en fait. Je sens que j'arrive au bout de mes ressources et je le nie. Je le nie parce que je culpabilise. J'ai pas envie d'être un poids pour les gens autour de moi, pour toi, pour tout le monde, en fait. Je veux pas être ce poids encore. Et donc, je le nie, jusqu'à ce que ça puisse plus être nié parce que, clairement, je pleure du matin au soir et donc, tout le monde capte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, généralement... En fait, je l'ai tellement nié que là, j'ai glissé, je suis dans la pente et j'arriverai plus à revenir en arrière.
Ce moment de prise de conscience
de ça, j'ai glissé, c'est fini.
Ça doit être...
J'ai plus de contrôle.
Horrible.
Et petit à petit maintenant, avec le travail, avec la thérapie, avec la médication, avec le soutien que j'ai, tout machin, de plus en plus, quand je sens que je glisse, j'arrive à me rattraper. J'arrive à me raccrocher, comme même si, genre, j'ai l'impression, vraiment comme si je glissais sur une pente de glace. Et avant, je savais juste glisser. Maintenant, je suis capable de me rattraper une fois de temps en temps. Je développe ces talents-là de réussir.
À force de tomber, ce qui n'est pas
à
génial.
À force de me péter la gueule encore, 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 encore et encore. pendant 17 ans à peu près, 17, 18 ans depuis que je suis malade. Et donc ça, c'est cool parce que si tu dis, bon, ok, c'est, on m'a dit c'est mort, tu seras toujours comme ça. Finalement, je me dis, à force de travail, il y a moyen que ça devienne vivable. Donc ça, c'est vachement cool. Mais ouais, quand je pars, je sais que c'est fini. Et quand au moment de la crise, en fait...
C'est quoi déjà une crise bipolaire?
Alors ça, c'est pas... Je sais pas
pour vrai. Toi, comment
pour moi,
tu dois...
Comment moi, je le vis, parce que je pense que beaucoup de gens le vivent très, très différemment. Moi, comment je le vis, c'est qu'à un moment donné, la colère... J'ai une boule de colère à l'intérieur qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et ça peut durer des semaines et des semaines et des semaines. Parfois, ça peut durer des mois. Et je sais qu'il y a eu ma première crise, dont je me souviens, ça a gonflé pendant des années.
Yikes.
Ouais, c'est ça, la première, en fait. Quand la bipolarité s'est déclenchée, il a pris de plus en plus de place. En fait, j'ai accumulé, et à un moment donné, j'ai pété un câble et j'ai mis le feu à un appartement.
Vraiment?
Ouais.
Mais je savais pas ça.
Donc, voilà, il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant.
Oui, donc, est-ce qu'on peut en parler ou pas?
Oui.
La vraie réponse.
On peut en parler.
Ma question,
ça me met encore très mal à l'aise, en fait. Non, j'ai pas envie.
Je veux pas te pousser. Des fois, en live, c'est facile.
Il y a des choses avec lesquelles je suis pas encore complètement à l'aise. Et c'est des choses sur lesquelles je travaille. Ça, c'est un truc que j'ai énormément de regrets sur ce truc-là. J'ai fait de mal à personne. C'est des dégâts minimes et vraiment pas importants, même que ce soit... Voilà, il y avait rien, mais le geste était là. Le geste a été là. J'ai mis le feu.
Holy shit.
De rage, en fait. De rage, de douleur, d'explosion, de tout, en fait de besoin que mon environnement soit aussi chaotique et
brûle autant que toi littéralement,
que tout, c'est exactement ça, que en fait que l'extérieur matche avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a tout qui brûle et tout qui explose et tout qui hurle et qui se déchire et donc il faut à un moment donné, t'as juste besoin de connecter avec ton environnement, et ben, comme toi, tu peux pas revenir à l'apaisement que l'environnement
représente.
Ben, burr. Et là, ici j'ai eu deux crises, je crois.
Parce que nous, on a fait le podcast avec toi, ça devait être en avril-ish, avril-mai, c'est le numéro 20. Wow, ça devait être en avril encore, I guess.
Ouais, ça se peut, je me souviens plus trop.
Et t'avais eu un épisode.
Ouais.
Et
je crois qu'il y en a eu deux après.
Deux après.
C'est
et donc,
flou aussi dans ma tête.
Okay. Oui, mais c'est ça que tu dis, tu te souviens pas nécessairement de tout. Ce que je veux dire, c'est que tu te vois. On est quand t'es en crise, vraiment, c'est ça, tu te vois.
Je me vois pas de haut comme on peut voir parfois. C'est vraiment comme si je me retranche à l'intérieur de moi.
Ok.
Je suis moi, c'est mon moi, qui est juste tout petit, à l'intérieur, tout au fond de mon corps. C'est comme ça que je me le représente, tout au fond de mon corps, dans le noir. Et je vois ce que mon corps fait, j'entends ce que ma bouche dit, mais ma conscience, elle est rétractée à l'intérieur et elle n'a plus aucun contrôle sur rien.
The Hulk.
C'est plus moi. Exactement. Et
littéralement.
J'adore ce personnage. Ben, ce personnage, il résonne, mais à fond chez moi, parce que c'est exactement ça. Ce n'est plus moi. Et à force de travail... En fait, c'est fou. C'est vraiment exactement ça. J'avais jamais...
Mais c'est clairement une métaphore, de toute façon, Hulk.
Oui, évidemment, mais c'est exactement ça. Tu vois, ce truc dans Avengers... spoiler alert, ceux qui n'ont pas vu tous les Avengers. Mais bref, dans Avengers, avec Natasha Romanoff, ils arrivent à développer un truc où, à force de travailler ensemble, elle est capable de l'amener à reprendre sa forme humaine, tu vois. Ben, c'est ça. C'est à force de travail, tu finis par être capable de dompter la bête, de ne pas glisser quand tu glisses, de ne pas laisser la bête exploser sans que tu le veuilles, de la contrôler et tout, mais c'est un travail de taré.
Oui, parce que les conséquences, elles sont violentes. Ça coûte, moi, tu m'as déjà dit, genre, quand t'es rétracté à l'intérieur de toi-même, tu t'entends parler, tu fais comme, oh, je vais devoir m'excuser pour ça.
Et je vois le mal que je fais. En direct, je vois le mal que je suis en train de faire, la douleur que j'inflige chez certaines personnes, les mots que je dis qui peuvent être destructeurs, parce que honnêtement, je suis vraiment très intelligente. J'ai grandi dans un climat dégueulasse où j'ai appris à insulter les gens et à faire mal. Depuis toute petite, je sais où taper pour faire mal. Et donc, malheureusement, c'est un très grand talent chez moi. Et donc, je me vois faire et dire des choses. Je me vois détruire des gens, rabaisser des gens.
C'est drôle, mais c'est drôle.
C'est très, très, très difficile après.
Pendant,
c'est terrible de se dire, je suis en train de faire ça, je suis un monstre. Et tu te hais. Tu te hais à un point incroyable, mais t'as pas de contrôle.
Ouais, c'est le point de la maladie. Ouais.
C'est à un moment donné quand...
Et tu te souviens pas d'une partie, en plus.
Quand la bête a explosé et que le volcan a explosé et se rapaise, là, je reprends le contrôle. Et puis là, bah, c'est moi qui assume les conséquences de ce que la bête a fait, littéralement. Quoi. C'est vraiment ça. Par contre, je suis consciente tout le temps. J'avoue que je suis dans... Après ça, je suis dans un état émotionnel tellement d'épuisement absolu, je suis juste out, c'est super ouais, intense. Ouais. C'est comme après des convulsions ou après une crise d'épilepsie, ça doit être à peu près comparable l'épuisement que tu ressens après.
Littéralement, c'est le même médoc pour certaines personnes qui sont épileptiques pour stabilisateur d'humeur pour
ouais,
toi. Ouais.
Ouais. À la dose que je prends, c'est la même molécule qui fait effet. C'est juste un dosage différent, mais c'est la même molécule. Donc bah, oui, peut-être qu'effectivement, il y a un lien, mais ça ressemble vraiment à ça. Après, je suis tellement épuisée que j'avoue que mon esprit est un peu troublé. Je ne me rappelle pas tout et tout, mais ce n'est pas parce que je suis plus consciente. Je suis consciente tout le long. C'est juste après, en fait, c'est tellement épuisant et traumatisant que ton cerveau, il zappe des trucs. Enfin,
est-ce que tu crois que c'est une manière de te préserver aussi?
Bah, probablement.
Le corps, c'est absolument fascinant ce qu'il va faire pour te préserver. Et moi, j'ai vu dans des trucs que tu racontais avec ta vie, je veux dire, c'est pas sorti de nulle part, la bipolarité, forcément. Et une phrase qui m'a marqué, à un moment donné, tu me dis, c'est fou parce que peu importe à quel point j'avance et je progresse, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose. Mais c'est entre guillemets normal dans le sens que, après, maintenant, si on t'a genre, tapé quand t'étais jeune, ben, c'est le premier truc que tu vois, puis après, tu fais. OK, j'ai géré ça, mais je redonne un petit coup de zoom. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Et je sais que ça contribue à ton épuisement.
Il y a plein de gens qui se demandent « Ah, mais à quel moment il faut s'arrêter ?» Jamais. La réponse, c'est jamais. C'est juste qu'il faut trouver une manière de le faire qui ne soit pas destructrice. Mais la réponse, c'est jamais. C'est juste qu'en fait, on se dit « Ah, mon Dieu, c'est tellement dur. » Oui, mais plus tu vas y arriver, plus tu vas le faire, plus tu vas continuer, plus ça va être facile. Et tu vas arriver à un moment dans ta vie où tu vas être capable de dealer tes traumatismes au fur et à mesure sans que ce soit dévorant. Mais ça se travaille. Genre, tu ne deviens pas ébéniste en faisant ça 2 heures dans ta cave un samedi soir. Non, évidemment que ce n'est pas beau et que ce n'est pas bon et que c'est pas... Ben, c'est la même chose.
Et une des raisons qui fait que je voulais que tu reviennes dans le podcast, c'était... Je voulais que tu racontes la suite.
Ouais.
Depuis avril... jusqu'à aujourd'hui, donc on enregistre le 2 octobre. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé? Encore une fois, je sais que tu as accepté parce que tu sais, on se connaît, mais tu as accepté entre autres parce que tu m'as dit qu'autant c'est difficile, autant il y a une empathie qui se développe quand tu es malade et quand tu vois que tu es capable d'aider quelqu'un qui vit la même chose, tu es prêt à aller tellement plus loin et donc toi à raconter des trucs qui sont assez difficiles à raconter. Mais je t'ai déjà vu pleurer plus d'une fois en lisant les messages que les gens t'ont envoyés. Parce que tu fais comme...
Pas plus d'une fois, je crois que c'est même assez systématique.
Oui, de... Oh, genre, je ressens sa douleur.
Ouais.
Il a réussi à reacher vers moi. Et elle va peut-être gagner du temps. Je vais peut-être pouvoir l'aider. Je vais peut-être créer du beau avec du dégueulasse au final. Ouais.
Mais en fait, le truc avec avec la maladie mentale, c'est que la douleur que la maladie mentale provoque, et je pense, alors peut-être que quelqu'un ne serait pas d'accord avec moi, de toute façon, personne ne connaît rien à ça, donc c'est juste des opinions, mais je pense que peu importe la maladie que tu as, que ce soit de la schizophrénie, un trouble de la personnalité limite, une bipolarité, enfin, peu importe ce que tu as, la douleur qui est provoquée est très comparable. La douleur que vit un schizophrène, la douleur que vit un bipolaire, c'est très très comparable. C'est pas la même cause, c'est pas les mêmes effets, c'est pas les mêmes symptômes, mais c'est la même douleur. Et donc quand t'as vécu ça, et que tu le vois chez quelqu'un d'autre, tu sais exactement ce que cette personne a senti, et à quel point ça s'est imprimé loin dans cette personne-là.
Et quand tu décris sa douleur à cette personne, elle peut aussi se dire genre « Oh !»
Mais oui, moi j'ai eu des gens...
Libération.
J'ai été dans les deux cas, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Est-ce que tu ressens ça ?» Moi je le vis comme ça. Et c'était mot pour mot ce que je ressentais. C'était tellement exact et juste. Et à un moment donné, tu connectes avec cette personne-là parce que t'es plus tout seul.
Ouais.
T'es la plus vraie solitude. Tout seul. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que finalement, t'es pas une merde. Parce que tu regardes la personne en face et bah, c'est pas une merde.
Ouais.
Elle vit la même chose que toi. Elle a les mêmes difficultés, les mêmes insécurités, les mêmes douleurs, la même... Et c'est pas une merde. Donc finalement, bah, peut-être que je suis pas une merde, en fait.
Ouais.
Et ça fait du bien d'être avec ses pairs, en fait, et d'être compris, et d'être dans un environnement bienveillant, parce qu'on est, on ne vit pas dans un environnement bienveillant. Les malades mentaux, non.
Est-ce que tu as failli te reprendre parce que tu trouvais ça violent de dire malade mentaux?
Ouais. Non, en fait, pas parce que je trouvais ça violent, parce que j'avais peur que ça desserve mon propos. Et après, je me suis dit non, c'est le vrai mot, je l'utilise, tant pis.
Ouais, c'est ça, se réapproprier les mots aussi, je crois
c'est... marrant, comme maladie mentale, ça va, les malades mentaux, ça va plus. Mais c'est dingue, hein?
Mais c'est toujours ce recul.
Mais je veux me réapproprier le mot. Ouais. Ouais, je suis malade mentale. Ouais, on est des malades mentaux. Ouais, c'est vrai, et alors?
Et encore une fois, t'es malade, t'as même pas besoin de préciser que c'est mental ou physique quand t'as un problème physique. Je suis malade.
C'est marrant parce que si tu te casses la jambe, t'auras aucun problème à appeler au boulot pour dire « Regardez les gars, je me suis cassé la jambe, je peux pas venir, là, ça marchera pas. » Pas de problème, y a personne qui va te shamer, te dire que t'es ridicule, te dire de te bouger le cul, non. Par contre, t'es atteint de dépression chronique, ou t'es schizophrène, ou t'as n'importe quoi d'autre, tu vois, n'importe quel autre trouble psychique, émotionnel ou mental, bah là, je vais pas appeler, bah non, je vais me forcer. Et puis tu te forces.
Ouais, jusqu'à ce que ça pète, quoi.
Non, pas jusqu'à ce que ça pète. C'est trop facile de dire jusqu'à ce que ça pète. Jusqu'à ce que tu brises.
Ouais.
Parce que ça pète, c'est rien, c'est pas personnel, ça engage à rien. Le ça, il est dangereux.
Ouais, c'est toi qui pète.
C'est pas ça qui pète, c'est toi qui pète. C'est toi qui t'écroule.
Ce qui me fascine, moi, c'est quand tu commences à regarder ces trucs-là, de voir à quel point... Il y en a qui vont dire, genre, mais moi aussi, j'ai de la difficulté, moi aussi, j'étais le truc, toi, botte-toi le cul. Ce réflexe anti-empathique de... Au lieu de se dire, genre, oh mon Dieu, cette personne a de la difficulté, moi aussi, j'ai la même chose. Un, je vais lui dire que je comprends. Deux, je devrais peut-être faire attention à moi. Mais de vouloir rendre plus rude un environnement qui t'a détruit...
C'est vraiment... Le fait, l'adoration de la pénibilité.
La valorisation,
la valorisation de la pénibilité, c'est exactement ça. Moi aussi, pour moi aussi, la vie est dure et j'en fais pas toute une histoire et je fais pas chier tout le monde. Mais peut-être que tu devrais, en fait. Si t'es pas bien dans ta vie et que ta vie, c'est de la merde et que ta vie, elle est tough et que c'est trop dur le matin et que toi aussi, tu pleures le soir parce que t'es au bout de ta vie, ben, bats-toi.
Ne te valorise.
Ne te valorise pas dans le fait d'être
De continuer de souffrir.
Trop solide pour ton propre bien.
De continuer de souffrir aussi.
Pourquoi tu fais ça, de te valoriser, d'être en souffrance permanente et d'être quand même balèze? Non, ne fais pas ça. Ne sois pas en souffrance permanente. Viens, je vais t'aider. On est ensemble dans ce truc. Pourquoi tu me dévalorises? Parce que moi, je fais respecter mes limites. Parce que moi, je m'aime. C'est pas ma faute si tu te détestes. C'est pas mon problème si tu te détestes. Ne fais pas rejaillir sur moi le fait que toi, tu t'haïs.
Et c'est fou parce que souvent, le discours aussi, ça va être... Genre, en gros, la société comme ça, tu viens de me faire des gros yeux parce qu'on vient d'entendre le...
Avant d'enregistrer, je lui ai dit, éteins le son de ton ordi pour qu'on n'entende pas le...
Je pensais l'avoir fait, non, je ne l'ai pas fait. Je me suis donc déconcentré. Je vais prendre une seconde pour retrouver mon idée.
Ça m'arrive tout le temps.
Mais, oui... Ce côté-là, c'est qu'on va dire parfois, genre, oui, mais c'est comme ça, la société est comme ça, il y a des règles, des trucs.
Mais c'est pas obligé.
Et ce que je trouve génial avec la jeune génération, donc la jeune génération pour moi qui a 37 ans, en fait, elle fait exactement la même chose que les autres jeunes générations ont fait avant. Elle dit, ah, c'est comme ça, fait, oui, mais on le rejette, ton modèle.
J'en veux pas de ton modèle de merde, garde-le. Tu t'es battu toute ta vie pour l'avoir. Good, it's not good enough for me.
C'est ça. Et puis, soit tu dis, ouais, mais nous, moi, j'ai eu à me battre pour ça. Ton but devrait toujours être de faire en sorte que les suivants, si tu as un minimum de solidarité avec genre, le genre humain, que ce soit plus facile de génération en génération, ou tu as eu ton temps. Genre, you had your time. Toi, c'est ça.
T'as essayé, t'as échoué. Laisse-nous tranquille maintenant.
Ou t'as réussi.
Et ça te convient. Ça me permet, moi, de mener mon prochain combat.
Ou ce que toi, t'analyses comme étant une réussite, moi, je trouve que c'est un échec. Toi, t'es content de ta maison. Moi, je déménage, j'en construis une autre, je me sers du bois de ta maison pour construire la mienne, à la limite, mais c'est tout le principe de...
Le commentaire, je pense, qui m'enrage le plus dans tous les commentaires débiles que j'entends autour de moi, c'est « Oh, on était quand même mieux avant ». Ce commentaire-là m'insulte et m'enrage. Qui était mieux avant? J'ai entendu il n'y a pas longtemps une femme dire « On était quand même mieux dans les années 70, les valeurs étaient autrement meilleures qu'aujourd'hui, on avait moins de problèmes, les femmes s'habillaient, il n'y avait pas de soucis, puis les hommes, c'était des vrais hommes. » Tabarnak, c'est quoi ça?
Mais je vais te relancer pour te...
Il y a tellement rien qui va à chaque niveau de cette phrase. Honnêtement, je suis limite outré qu'on ait utilisé une langue que j'aime pour prononcer ces mots.
Je vais te challenger. Pendant des années, tu disais que... Toi, t'étais une fille,
oui.
Mais...
Oui, alors oui, toute mon adolescence.
Tu t'es valorisée.
Je me suis valorisée en disant que moi, je traînais pas avec des filles, que tous mes amis étaient des gars, que moi, j'étais one of the boys, que moi, j'étais pas comme les autres, que moi, j'étais pas comme elles, que moi...
T'étais pas chiante, sous-entendu.
J'étais pas chiante, j'étais pas casse-couille. Je suis moi-même bisexuelle et je disais moi-même, écoute bien, que être dans un couple où il y a une fille, c'est déjà casse-couille, mais être dans un couple où il y en a deux, c'est vraiment l'enfer. Moi, j'ai dit ça. Pendant toute mon adolescence.
Et ça devient une catchphrase. Hein?
Et c'est ça, c'était ma catchphrase. I'm one of the boys, I'm one of them. I'm not one of the girls because girls...
Tu viens de toucher sucks. En anglais.
Pardon, excuse-moi. Je suis une des leurs, une des gars, en fait. Parce qu'être une fille, ça craint. Parce qu'on t'apprend depuis que t'es née que tout ce qui est féminin est systématiquement nul. Et tu veux pas être nul. Donc tu rejettes le féminin.
Ah oui, et ça, on pourra en parler longtemps. Et d'ailleurs, je te propose ceci, parce que si je te dis, c'est un bon sujet, mais c'est pas celui
absolument,
dont on parle...
Absolument, je
m'emballe. Non, mais si je te dis ça, là, t'as le gars qui dit à la femme qui commence à parler de féministe, c'est pas le sujet de la conversation. Et honnêtement, c'est bof-bof. Je trouve ça quand même assez moyen. J'ai pas envie d'être dans cette position-là, sauf que je t'ai demandé il y a 10 minutes de raconter de ton mois d'avril à ton mois de septembre, mais je vais te faire une suggestion. Si t'as envie, moi, mon objectif qui est admis, si je ne l'ai jamais dit dans ce podcast, je le dis maintenant, c'est de créer une chaîne de podcast. Je veux, moi, en faire 5, 6, 7 différents.
Ouais, je vois où tu vas avec ça. Tu veux profiter de mon talent encore.
Ouais, ça ne marche pas, moi. Je vais utiliser ceux que ça marche. Et je veux produire des podcasts des autres. Je veux faire une chaîne où il y a un mood où tu dis, même si je ne connais pas ni le produit ni l'animateur,
je sais que ça va être bon.
J'ai confiance en cette zone-là, dans cette maison-là, je me sens bien et je leur fais confiance.
Oui, tout comme certaines maisons d'édition sont vraiment des gages de qualité
littéraire.
Ouais, c'est
ça. Toi, t'aimes tel type de sujet, ben garde, je te fais confiance. Des critiques littéraires, des voix. Mm-hmm. On pourrait, si tu veux, c'est toi qui choisis, soit toi tu fais un podcast tout seul de ton côté, où tu parles de ce que tu veux, comme tu veux, et d'une manière ou d'une autre, je l'intègre à ça, ou pas, hein. Mm-hmm. Tu fais ça de ton côté, puis tu dis, j'ai pas besoin de toi, je vais pas traîner un boulet, ou on fait un podcast ensemble. On en avait un qu'on a fait genre 3-4 fois, qui était Weed with Wife.
C'était très rigolo, mais voilà.
Moi ne fumant plus...
Ça n'avait plus trop d'intérêt, et moi ne fumant plus pendant toute la grossesse, l'allaitement, etc. Ça n'avait plus tellement d'intérêt non plus.
Et je t'en ai parlé, parce que forcément, je vais pas faire semblant que l'idée me vient comme ça, là, on s'en est parlé avant, mais
ouais.
Je trouvais que à ce moment-là, le fait de fumer de la weed était du bruit qui couvrait ce qui, pour moi, était plus intéressant. C'est pas genre deux personnes déchirées qui causent, c'était je trouve ta conversation intéressante et j'ai envie de la partager.
Une personne intéressante et intéressée qui cause.
En tout cas, une personne dont les gens aiment entendre la vie.
Alors, cette fausse modestie m'énerve.
Et un autre qui a le matériel et une vision. Voilà. Mais c'est plus masculin aussi, l'organisation.
C'est bien connu.
Donc voilà, si ça t'intéresse, on peut commencer, mais ça me fait juste chier parce que j'ai pas de nom. Je voudrais que tout soit dans le même... Donc, tu sais, que ça soit avec le même logo, le même truc, j'ai pas encore trouvé de nom.
Si vous avez des idées d'ailleurs, pourquoi pas. Hein?
Parce que le problème, c'est que moi, je trouvais que Dan Gagnon podcast avec sa femme, c'est bien. Sauf que genre, j'entends déjà tout le monde hurler parce que toi, t'aimes ça. Quand je t'appelle ma femme. Et c'est une demande. Mm-hmm. T'aimes ça quand tu dis genre ma femme.
Mm-hmm. Parfois, il dit ma copine, ça va ou quoi?
Non, mais même le ma femme, plutôt que, tu vois, je sais que c'est quelque chose, ou au moins que t'as changé, mais c'est quelque chose que toi t'aimes.
Non, moi j'aime.
Sauf que de l'extérieur.
Et c'est acceptable parce que j'ai choisi.
Oui, mais évidemment. Sauf que de l'extérieur, même si c'est acceptable pour toi, il y a vraiment un côté qui est comme bof-bof, tu vois.
Ouais, mais justement.
Ouais?
Justement. Le but, c'est qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire dans le respect. Et là, on fait ce qu'on a envie de faire dans le respect. Bon.
Bah, problème réglé. Est-ce que ça te tente?
Oui, à fond.
Fantastique. Et maintenant, je me recule, je me retire et je veux que tu racontes à ta manière, si tu as envie,
oui.
Ton avril et en 20 secondes.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, voilà, on a continué le confinement, ça n'a pas très bien été, comme je disais, ça a été très dur, une crise, deux crises, trois crises, il me semble, ça a été assez l'enfer, et au bout de la troisième crise, j'ai dû dire à Dan, c'est tout, c'est fini, je peux plus, j'arrête. J'arrête tout.
Et quel moment où tu dis
j'ai fini,
j'abandonne.
J'ai plus rien à donner.
Mais tu sais pas comment abandonner.
Mais comment tu fais pour abandonner la vie sans mourir?
Oh, c'est ça.
C'est très compliqué en fait. Je lui ai dit juste, je peux plus m'occuper de la maison. Je peux plus m'occuper de notre enfant. Je ne peux plus m'occuper de moi. Je ne peux plus m'occuper ni de nous, ni de toi. J'ai besoin d'arrêter tout. Et évidemment, tu m'as dit oui, comme s'il y avait un autre choix, moi, de toute façon, parce que c'était, il n'y avait plus rien.
Donc moi, j'ai pris un billet pour le Mexique.
C'est ça. Donc évidemment, non, t'as pris les choses en main, tu as tout repris tout seul comme un champion. C'est vrai. Et moi, depuis, j'essaye de m'en remettre.
Et t'as eu trois semaines, entre autres, où t'étais, moi, je suis carrément allé ailleurs. Pour que t'aies que
oui,
trois
alors
semaines.
Ça a été absolument fou parce que moi, j'aime pas ne pas être chez moi. Moi, si je suis pas chez moi, je suis pas bien. Donc, vous imaginez, voyager, machin, pas mon truc. Et pour que je puisse être chez moi, seule, dans le silence, dans le calme, dans tout ce dont j'ai besoin, dans mes repères, dans ma zone de confort, dans mon safe place, mais que je puisse être dans le calme, Dan a pris notre enfant, qui a 13 mois, et il est allé vivre chez ses parents pendant 3 semaines. Et ce qui me permettait, en fait, de pouvoir voir mon enfant quand je le voulais. Je savais que mon enfant était dans un environnement où il était bien, il était entouré, il avait son père, son grand-père, sa grand-mère, il était super bien, entouré d'amour, de machin, la certitude absolue qu'il allait être traité comme un roi, honnêtement, vraiment. Et de savoir que quand je voulais, je pouvais prendre la voiture et aller le voir, il était à 15 minutes de chez moi. Ce luxe-là, ça a été malade.
Mais ce luxe-là, parce que, bon, c'est super, je suis content de l'avoir fait, mais le point, c'est que c'est pour moi, le point qui est important, tu dis, ah, Dan a fait, entre guillemets, un sacrifice, il est à l'ailleurs, quoi que ce soit, mais je suis pas d'accord avec cette analyse-là, parce que moi, je vais te le raconter d'une autre manière. Ça se passe tellement mal pour toi que tu dois gérer la culpabilité de ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Tu n'es même plus capable d'avoir sous ton toit les bruits de la vie de tous les jours.
Non, je ne tolère plus. En fait, j'ai un problème de bruit. Je ne tolère pas le bruit. Aucun. Jamais. Aucun bruit. Et donc, forcément, quand tu es enfermé pendant tout un confinement avec un jeune bébé qui est...
Un bébé.
Qui est un merveilleux bébé, mais un merveilleux bébé, ça fait beaucoup de bruit, tu vois. Et au bout d'un moment, tu pètes les plombs, en fait.
Mais sauf que, et toi, tu as énormément de mal à être seul. Et donc, tu acceptes de te retrouver seul, de te retrouver éloigné de ton enfant, de te retrouver éloigné de ton mari pendant 3 semaines pour être seul face à une crise en plein confinement, essayer de t'en remettre, essayer de travailler, puis essayer de le faire au plus vite pour pouvoir retrouver la vie normale. Il n'y a pas de « Ah, cool, il m'a permis de... » c'est pas un fucking spa, c'est pas un salon, c'est pas un truc. Non. Et c'est ça que je... Et je pense que c'est...
C'est vrai.
Et de tout ce que tu me racontes, c'est la deuxième fois, en tout cas, depuis qu'on est ensemble, depuis que consciemment, en tout cas pour moi, depuis ta maladie, de se dire « Holy fuck, ce dont les gens malades ont besoin, c'est quelque chose que rien ni personne ne leur octroie. » Quand tu as eu ton diagnostic de bipolarité, je me souviens, tu as dormi trois... Mais littéralement, tu n'as pas bossé, tu as dormi 3 mois.
Je crois que j'ai dormi 5 mois.
Anywho. Tu as dormi plusieurs mois.
Mais quand je dis j'ai dormi 5 mois, je veux expliquer ce que ça veut dire parce que c'est très flou pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai dormi 5 mois? Je n'ai pas dormi en continu pendant 5 mois, mais je dormais au moins 12 heures par nuit. Quand je dis au moins 12, c'est au moins 12. Donc, je me couchais à 9 heures, je me réveillais à 9, 9h30, 9, 10, parfois même le lendemain, d'une traite. Et je devais mettre dans ma journée, dans mon planning de la journée, 2 siestes de 2 heures, sinon je n'étais pas capable de tenir jusqu'au soir.
Pendant 3 mois, qui a ce...
C'est ça.
Et je ne vais pas dire luxe. À qui est-ce qu'on octroie ce minimum pour la santé mentale? Parce qu'après, tu es un élément fonctionnel même... pour toi, pour les autres et pour la société. On est tous des voitures fucking déglinguées, en train de rouler sur l'autoroute sans faire de contrôle technique, en disant « j'espère, ça va bien aller! »
Non, mais regarde, la voiture est dégommée, mais je roule quand même, je suis fort!
Regarde, ouais,
comme, mais non, t'es pas fort, t'es stupide!
Tu vois, tu
arrête-toi, viens, on va prendre soin de toi, t'es stupide.
T'es
pas stupide, c'est juste t'es inconscient.
Oui.
T'es inconscient. Viens, je vais te montrer. Je vais te montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Viens, regarde, je vais te montrer. Il y a une voiture, elle est bien. Tout va bien. Il y a une petite route, elle est hyper cool. Ça prend pas plus longtemps. C'est juste que là, faut que tu t'arrêtes. Tu te calmes.
Tu veux dire que t'es une société qui soigne et qui prend soin de ses gens avec un diagnostic de maladie mentale. Ça devrait être fucking automatique. Boum! Un arrêt de la vie de plusieurs mois.
Je suis pas d'accord dans l'automatique, parce qu'il y a des gens, si tu les arrêtes, ouais, c'est là qu'ils pètent un câble.
C'est con ce que j'ai dit.
Mais il devrait y avoir au moins une expertise, au moins... Si ton médecin réalise que t'as un cancer, il t'envoie voir un cancérologue. Si ton médecin réalise que t'as une dépression, que t'as une quelconque forme de maladie mentale, il devrait t'envoyer voir un psychiatre sur le champ. Tu devrais avoir accès à un psychiatre immédiatement pour que le psychiatre puisse te voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, faire les analyses nécessaires, whatever ce que ça prend, pour faire un diagnostic de santé mentale. Exactement comme un diagnostic de santé physique, c'est le même truc.
Mais ce qui se passe,
c'est que la plupart des médecins, et je jette pas la pierre aux médecins, ils font avec ce qu'on leur donne, avec ce dont ils disposent. C'est pas eux qui sont responsables, je pense, pour une grande partie du problème. Mais... devrait référer à un psychiatre toutes les personnes où on soupçonne que ce soit d'une dépression à un problème de santé mentale.
Quelque chose de passager à quelque chose de permanent, comme n'importe quelle maladie.
Absolument.
Et toi, je t'ai vu travailler donc très fort pendant des années et des années et des années. Mm. Et aujourd'hui, ça va mieux. Je crois qu'on peut dire que ça va mieux.
Ça va vraiment mieux.
Et je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que ce qu'il n'y a pas en général quand on parle de maladie mentale, c'est l'espoir. On dit, est-ce que tu vas t'habituer? Est-ce que tu vas, genre, abandonner? Est-ce que tu vas te lobotomiser toi-même? Est-ce que tu vas oublier tes rêves, sacrifier des...
Est-ce que tu vas vraiment passer toute ta vie à lutter?
Et tu m'appelles cet été à un moment donné, parce qu'on refait quelques jours après ça. Non, c'est moi qui pars.
C'est toi qui t'es parti. À un moment donné, Dan, il est au bout de sa life.
C'est moi qui pars. Et tu m'appelles un soir... parce que tu m'as dit, t'inquiète, va te reposer. Non, c'est vraiment ça, un truc de merde.
Vilain Dan.
Tu m'appelles et tu me dis, je sais pas ce que j'ai, il y a quelque chose qui fait que je me sens mal, et tu remets en doute, pas tu remets en doute, tu te questionnes à savoir si le diagnostic...
Je me remets pas en doute, je remets en doute le diagnostic. Je me dis, bon, là, ça fait... j'ai un diagnostic, mon diagnostic, ça fait... Non, ça fait plus que ça. Ça fait 5 ans, pardon, t'as raison. Ça fait 5 ans, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. La médication systématique, la thérapie, le travail sur soi-même, vraiment, genre, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'ai géré des traumatismes, mes traumatismes d'enfance, j'ai dealé vraiment toutes sortes de choses, j'ai affronté qui j'étais, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, aujourd'hui je suis fière de qui je suis, voilà. Et vraiment, genre, j'ai énormément avancé, j'ai fait tout ce que j'étais supposée faire, tout ce que je pouvais faire pour améliorer les choses. Et malgré tout, ça va pas.
Et donc, tu me dis, qu'est-ce que t'en penses?
Et donc, j'appelle Dan et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que soit on s'est trompé et que je suis en train de soigner une maladie que je n'ai pas. Et donc, forcément, ça m'a aidé pour certains trucs, mais forcément, ça marche pas. Est-ce qu'on se serait pas trompé? Est-ce que ça vaudrait pas la peine que je revoie des spécialistes pour voir ce qu'il en est? Ou est-ce que juste, c'est vraiment sans espoir? Et honnêtement, je lui dis, pas du tout dans une idée de tentative de suicide, mais honnêtement, si vraiment la vie c'est ça, si vraiment c'est ce à quoi je peux espérer, c'est ça. Mon mieux c'est ça, ça vaut pas la peine en fait. Et c'est pas je vais envie de mourir, non, c'est juste une constatation.
On m'a menti, la vie c'est pas cool quoi.
On m'a menti en fait. La vie d'un bipolaire qui se soigne, ça ne vaut pas la peine. Et c'est vraiment ce que je me posais comme question. Est-ce que j'en suis à cette constatation-là, en fait? J'étais terrifiée, j'étais super mal, je me sentais pas bien du tout. Et puis on parle. Et à un moment, Dan, il me demande, il me dit, est-ce que je pourrais éventuellement faire une suggestion? J'ai peut-être une idée. Je dis, ouais, vas-y.
Tout est bon à prendre.
Honnêtement, là, n'importe quoi, parce que je suis au bout, j'ai plus rien.
Je vais arrêter le lactose.
C'est ça, honnêtement, je me fais couper un pied s'il faut. Je teste des trucs, parce que là, honnêtement, l'astrologie, whatever, n'importe quoi. Et il me dit, mais peut-être que t'as fini, en fait.
What if? T'as fini ta thérapie.
Quoi? C'est ça, what if? Et si t'avais fini? Et là, je comprends. Au début, je comprends pas. J'ai comme fini quoi? Mais non, je peux pas avoir fini, je suis pas bien.
T'es habitué de tout enlever, ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur.
C'est ça. Là, je vais te laisser dire ce que t'as dit.
Et peut-être, ça se trouve, là, t'as tellement été habitué de faire ça que là, tu te sens mal parce que t'essaies d'enlever quelque chose et qu'il n'y en a plus. Et ce que t'es pas habitué, c'est qu'est-ce que ça fait quand j'ai fini? Peut-être que tu as fini ta thérapie et maintenant, tu es OK.
Et c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il y avait un truc où je me dis, mais ça fait quand même encore mal. Et tu m'as dit, t'as passé ta vie à arracher des gros morceaux. Et c'est vraiment comme ça qu'on en a toujours parlé, toi et moi, c'est comme ça qu'on le visualise. C'est comme s'il y avait ces sortes de cancers qui sont attachés sur mon âme, qui sont tous les traumatismes, qui sont tous accrochés sur moi. Et à chaque fois que j'ai dealé, en fait, que j'ai vraiment pris soin de ce traumatisme-là et de l'analyser, de le faire passer, de l'accepter, de le mettre à sa place, de lui trouver une place qui était à lui, mais qui n'est pas toute la place. Enfin, ça a été vraiment tout un processus. C'est comme si j'avais arraché ce truc de mon âme. Et j'en ai arraché combien ? 15, 20 ?
Des gros morceaux, I guess.
Et quand on parle de gros morceaux, je parle de gros morceaux, c'est genre quand ma mère a disparu, quand j'étais petite.
Oui.
Elle est partie un matin et elle n'est pas rentrée.
Des gros morceaux, quoi.
Des trucs où j'étais terrifiée à l'idée de plus jamais voir ma mère. Et que quand elle est rentrée, je lui dis, mais t'étais où ? Elle m'a dit, ah, oh, ça va, c'est bon, fous-moi la paix. Tu vois, ce genre de gros morceaux où quand t'as 8 ans ou 9 ans, tu peux pas dealer ça, tu vois.
Oui, mais 40, tu peux pas dealer.
Non, mais c'est ça, mais ça te tâche et ça pourrit sur toi. Et un jour, il faut l'arracher. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que j'ai passé les 5 dernières années à arracher pour mettre ces choses dans les cases dans lesquelles elles devaient être. C'est-à-dire pas sur moi, en fait, parce que c'est pas à moi, ça m'appartient pas, en fait.
C'est pas ma douleur, c'est pas ma douleur,
c'est pas ma honte, c'est pas mon échec, c'est pas à moi. Donc je l'ai juste arraché pour le rendre symboliquement à la personne. Et bah, une fois que t'as tout arraché, honnêtement, mais t'es décolliste, tabarnak, c'est ça que t'es, c'est que ça fait fucking mal. Tu sais, quand t'arraches une croûte, bah t'as une plaie. Bah, là, voilà, maintenant, c'est fini d'arracher. Maintenant, c'est le temps de guérir. Et puis cet été, c'est ça que j'ai fait. Bah, j'ai guéri.
Et
j'ai pas fini, évidemment. Ben oui. Mais ça va mieux, putain.
Mais juste, tu sais, des fois, quand tu cherches au mauvais endroit, et moi, c'était un guess, je veux dire, je t'ai dit, est-ce que j'ai une idée, j'ai une théorie, mais j'en avais 22. Tu sais, ouais. Et t'as coup, il y a celle-là.
Et celle-là, elle a comme cliqué, comme c'est ça la vérité. C'est ça. C'est exactement ça. Putain, j'avais pas vu, mais c'est ça.
Et je t'ai entendu au téléphone. Enfin, moi, ce que j'ai entendu au téléphone, c'est ça. Littéralement.
Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Et en une demi-seconde, j'ai perdu 30 ans de stress, de kilos de stress. Tout le stress, la douleur, la colère, tout ce qui me mettait vraiment cette carapace dure qui m'enfermait et qui m'oppressait depuis toujours et qui me faisait mal et qui...
Et maintenant, tu commences à te reconstruire. T'es à l'étape
zéro.
Et tu vois
ce que je t'ai dit le lendemain quand t'es rentrée à la maison? Je t'ai dit, regarde ce que je peux faire. Tu te souviens?
Oui, t'as monté ton...
Je me suis mise droite et j'ai laissé ma tête penchée en arrière. Et ma tête est juste tombée sur mon dos. Elle a juste reposé sur mon dos.
Comme elle doit faire.
Comme normalement, c'est se poser. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Parce que j'étais tellement tendue. Mon corps était tellement sous tension permanente et bloquée que j'ai jamais été capable avant, quand je mettais la tête vers l'arrière, mes épaules remontaient et tout se serrait pour protéger, en fait. Donc c'est une position que j'avais jamais été capable de faire. Donc physiquement, ça a été une libération.
Et donc à partir de ce moment-là, tu as pu commencer à construire qui tu étais, mais pas qui tu étais à travers ce qu'on t'avait infligé comme traumatisme.
C'est ça. Qui était Flavie quand elle est née et qu'elle n'était pas encore traumatisée?
Ton vrai toi.
Le vrai moi.
Mais c'est beau de te voir aimer ton vrai toi. Et je te vois...
Et honnêtement, je découvre de plus en plus qui je suis. Et pour être vraiment honnête, je suis awesome. Franchement, je déchire.
Et c'était vraiment la raison principale pour laquelle je voulais que tu reviennes dans le podcast. C'est quand on parle de maladie mentale, c'est toujours lourd, c'est toujours dur, c'est rarement les personnes concernées, on se sent souvent seul, on sait pas où ça va aller, il y a peu ou pas de modèle, et je voulais... ton histoire prouve, en tout cas, certainement que c'est pas facile, mais ça existe, des happy endings.
Oui, en fait, c'est ça.
Mais des happy beginnings, parce que t'es au début de quelque chose d'autre. Mais...
Rebirth.
Ah ben oui, tout à fait.
Littéralement, c'est vraiment genre, je suis revenue au monde. Genre, là, je suis née, en fait. Le
mais
vrai
enfin, toi,
moi,
ouais.
La vraie Flavie, la vraie, elle est née là. C'est bon, ça y est, je suis là.
Je suis sûr que ces mots-là vont résonner vraiment très fort chez plein de gens qui
m'écoutent. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. La raison pour laquelle j'ai pas vu que j'étais déjà à la fin, c'est que quand tu commences ce travail-là, tu vois plus ou moins la direction que tu vas devoir suivre. Tu sais que ça va être long, mais t'as aucune idée. t'es au début du chemin, t'as une pancarte qui dit « c'est par là », et puis tu marches.
C'est où ? Loin.
C'est où ? Loin, mais c'est par là. Et toi, tu marches, et tu gardes ta direction, tu gardes la direction, tu gardes le pace, tu gardes le pas, t'es motivé, et puis t'es fatigué, et puis tu pleures, et puis tu déprimes, et puis tu t'arrêtes, et puis tu vas dans une autre direction parce que t'es fatigué, et puis tu reviens, et puis machin. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucune pancarte sur le long du chemin. T'as aucune idée d'où tu es, t'as aucune idée si t'es encore dans la bonne direction, t'as aucune idée si t'es proche d'arriver ou si t'es vraiment juste au début. Et c'est ça, et 5 ans plus tard, j'avais aucune idée si... Est-ce que je suis au début du chemin? Est-ce que je suis à la moitié du chemin? Est-ce que je suis à la fin du chemin? T'en sais rien, en fait. Et c'est ça, le truc, c'est que t'en sais rien jusqu'à ce que t'arrives. Et c'est ça qui est dur, c'est de continuer en sachant que t'en sais rien.
Est-ce que je le fais pour rien?
Est-ce que je le fais pour rien? Eh ben, tu sais quoi? Je suis la preuve que... On ne le fait pas pour rien. Un jour, on y arrive. On ne sait juste pas quand. Mais je vous jure que si vous continuez à vous battre, un jour, vous allez y arriver. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent de « on ne guérit pas, on machin ». Non, ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas parce que c'est loin.
Ce n'est pas parce que c'est loin et que c'est difficile, que ce n'est pas atteignable. On peut l'atteindre. La preuve, je l'ai fait. Est-ce que ça a été facile? Vraiment pas. Est-ce que ça a été les 5 pires années de ma vie? Absolument. Est-ce que j'ai eu des gens merveilleux pour me soutenir? Oui. Est-ce que j'ai demandé de l'aide? À fond de balle. À chaque fois que j'ai pu, j'ai demandé toute l'aide que je pouvais aller chercher. Et j'ai réussi. Est-ce que j'y serais arrivée toute seule dans mon coin? Jamais de la vie. Même pas en rêve. Est-ce que je serais devenue astronaute toute seule dans mon coin? Jamais de la vie, même pas en rêve. Est-ce que si je me donne à fond dans ce truc-là, et que je vais voir des experts, et que je fais des études, et que je me bats, et que j'étudie, et que machin... Ouais, je vais y arriver, ouais. Mais c'est la même chose. Tu veux y arriver? Ben, vas-y. Continue. Tu verras pas si t'es au bout du chemin. Mais il arrive.
Merci.
Plaisir.
Bye bye.
Bye bye.